Alléluia. Gloire à
Amen.
Dieu.
Man shim.
Vous allez bien?
Vous êtes
prêts pour l'enseignement de la parole de Dieu? Ce soir, on va, je pense, clôturer ce que nous devons clôturer, c'est-à-dire la consommation du salut. Et nous sommes dans l'étude des événements prophétiques. Et c'est intéressant, vous savez, quand on étudie les événements prophétiques. Et surtout quand on sait qu'on est du bon côté. C'est très mauvais d'étudier des événements prophétiques quand on est du mauvais côté. Et vous savez, je n'aime pas du tout les soi-disant prophètes là, de malheur là, qui vous annoncent que des malheurs. Dieu envoie le jugement sur le pays. Attention, l'Antichrist va venir vous manger les fesses pendant la nuit. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Qui vous racontent des trucs pour vous mettre la trouille. La Bible n'est pas une Bible de peur. Vous avez remarqué de la peur. Nous savons que la peur ne vient pas de Dieu. Donc quand quelqu'un commence à annoncer quelque chose et qu'il fait peur au peuple de Dieu, c'est très simple à déduire. Ça veut dire que ce qu'il dit, ça ne vient pas du Seigneur. C'est très simple parce que Dieu nous a donné la bonne nouvelle.
Biroroshye kuko Imana yaduhaye ubutumwa bwiza.
Savez, Dieu n'a jamais de mauvaises nouvelles.
Imana
n'a jamais de mauvaises nouvelles.
Imana nta nkuru mbi na zimwe ifise.
Il n'a que des bonnes nouvelles.
Ya mifise inkuru nziza.
Et c'est pour ça que l'évangile ça s'appelle la bonne nouvelle.
Voilà. Cyo gituma ubutumwa bwiza bwitwa inkuru nziza.
Le jour où tu as reçu Jésus, c'était une bonne nouvelle.
Musi wakire Yesu yari inkuru nziza.
C'était pas pour te dire qu'un jour tu allais souffrir, que l'Antichrist allait essayer de te mettre la marque sur le front et que tu allais être
Non.
Dieu a prévu quelque chose d'excellent pour nous.
Imana yateguye ibintu byiza kutubwira.
C'est ce plan que nous sommes en train d'étudier.
No mugambi rero turiko turiga.
Vous savez, Dieu a une double destinée pour vous.
Imana ifise inshuro kabiri.
Une destinée ici.
Aho turiko turaja. Turi hano mwisi.
Bien sûr, tant que nous sommes dans ce corps.
Tukiri muri uyu mubiri.
Mais aussi une destinée éternelle.
Aho turiko turaja ibihe bidashira.
Et c'est ce qu'on appelle la consommation du salut, voilà.
Nibyo bita ugushitswa kw'agakiza kacu.
Donc nous avons vu beaucoup de choses à propos de cela.
Twaravuganye ibintu byinshi kuri ivyo.
Nous avons vu que Jésus nous sauve, quand il nous sauve, notre esprit est né de nouveau.
Twarabonye ko Yesu adukiza yadukijije.
Nous sommes sauvés.
Tukaba kijijwe.
Mais notre salut va se manifester en plusieurs phases.
Ariko agakiza kacu kazokwigaragaza mu ntambuko zitandukanye.
Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier.
Nibyo turiko turiga.
Et puis nous sommes aussi en train de voir tous les événements prophétiques. Dans lesquels nous serons impliqués et qui sont d'excellentes choses pour nous. Donc nous avons vu que la grosse bataille, c'est quoi? La grosse bataille. Eh bien, c'est simplement que Dieu veut d'abord récupérer la gestion de sa propriété et qui veut un peuple qui le sert. Un peuple qui aura dit oui volontairement. Pas un peuple qui l'aura forcé à dire oui. Adam et Ève avaient un choix. De dire oui Seigneur, on va continuer à te servir. Ou ils avaient aussi un choix de dire non Seigneur, on ne te servira plus. Et ils ont fait le mauvais choix. Donc depuis la chute d'Adam et Ève, je vous rappelle, Dieu n'a pas oublié son premier projet. De toute éternité, il a un projet. D'avoir créé le monde physique. Après, bien sûr, avoir créé le monde spirituel. Et de là, il veut des êtres physiques qui lui ressemblent. Qui vivent avec lui face à face dans un environnement parfait sans qu'il y ait une goutte de péché. Donc ce plan-là, Dieu a prévu, l'a prévu et il n'en démord pas. Il continuera jusqu'au bout. Mais nous avons remarqué que ce plan va se faire. C'est ce qu'on appelle la restauration du royaume perdu. En fait, dans ce royaume perdu par Adam et
Ève,
Dieu va le restaurer, mais il va le restaurer en phase. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est bien beau, Jésus est venu. Qu'est-ce que ça a changé dans le monde? Vous avez déjà entendu cette réflexion? Ah oui, tu parles de ton Jésus. Qu'est-ce que ça a changé dans le monde? Parce que les gens ne savent pas qu'il y a un royaume éternel dans lequel il y a plein de gens qui naissent.
Jour
après jour. Et c'est ce royaume éternel qui prédominera sur tous les autres royaumes. Mais pour l'instant, les gens ne le voient pas parce que Jésus a dit le royaume de Dieu vient, ne vient pas de manière à frapper les regards.
Un jour,
ils le verront. Donc, Dieu vient dans la personne de son Fils. Et il vient ouvrir les portes du royaume. Mais tout ne va pas être refait d'un seul coup. D'abord, Jésus sauve. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Il sauve. Et un jour, Jésus va revenir. Là, il va dire, stop. Il y a des événements dont j'ai parlé dans ma parole. Ils vont commencer à partir de maintenant. Jésus retire son église. Il envoie ses jugements pendant 7 ans. Son église, elle, est au ciel. Nous savons qu'il y a la première résurrection qui va se passer aussi. Nous l'avons étudié. Précisément la première phase de la première résurrection. Et en fait, on s'aperçoit que nous, on est bien au chaud à recevoir nos récompenses au ciel. Et pendant 7 ans, Dieu va juger la terre. Et là, les hommes vont voir qui est Dieu réellement. Dans le sens où Dieu aura dit, maintenant, ça suffit. Maintenant, je vais vous montrer qui je suis. Vous êtes moqué de moi. Vous n'avez pas voulu mon salut. Maintenant, je vais vous montrer qui je suis. Et Dieu va commencer à se révéler davantage. Donc, nous avons vu qu'à la fin de ces 7 ans, nous avons vu la tribulation, la grande tribulation. Jésus va revenir une deuxième fois. Avec nous. Et là, il va écraser l'Antichrist. Nous savons qu'Israël sera au bord de la destruction. L'Antichrist aura fait un gouvernement mondial anti-Dieu. Mais il y aura quand même des gens qui se seront convertis pendant cette période. Un bon nombre auront été tués en tant que martyrs. Et ils seront au ciel. Les uns après les autres. Mais Israël va se convertir en masse juste à la fin de la tribulation. Puis nous avons vu que le diable va être enchaîné et il va y avoir une période très particulière de l'histoire de l'humanité et aussi bien sûr des prophéties pour Israël et nous avons vu ça s'appelle le millénium. Pendant 1000 ans, Jésus va venir régner à Jérusalem. Il va faire un gouvernement mondial. Et nous savons que le millénium commence avec qui? Bien sûr, avec nous qui allons régner avec Christ. Mais aussi, nous savons qu'au début du millénium, il y a des gens qui étaient morts, qui ont été martyrisés pendant la tribulation. Eux, ils vont ressusciter, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Ils vont régner aussi avec nous. Et là, je pense personnellement, en tout cas, c'est d'après ce que je comprends dans les Écritures, que nous aurons des positions élevées parce que nous aurons choisi la grâce de Dieu. Eux n'auront pas de position élevée parce qu'ils auront reçu Jésus après avoir vu l'enlèvement. Et ils n'avaient pas cru jusqu'à présent, c'est seulement parce qu'ils ont vu des catastrophes et qu'ils ont été au bout. Et qui se sont posés des questions en disant mais ces chrétiens ils nous disaient la vérité. Qu'eux ont accepté le Seigneur. Et à ce moment-là qu'ils ont été souvent martyrisés, la plupart d'entre eux. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui auront reçu Jésus comme sauveur personnel. Particulièrement des juifs.
juste à la fin de la tribulation, et qui vont entrer dans le millénium avec leur corps. Alors c'est pour ça que nous avons vu que le millénium commence avec différentes personnes. Ce sont tous des personnes qui ont servi Dieu, parce que les pécheurs à la fin du millénium sont tous exterminés. Donc il y a cette période de prospérité extraordinaire. On a vu des caractéristiques. On
ne
va pas trop revenir là-dessus. Je vous ai montré certaines paraboles de Matthieu 13. Des paraboles qui parlent de la fin du monde.
Donc,
juste cette période à la fin de la tribulation, c'est la fin du monde. Comment Jésus va faire le tri entre les justes et les injustes.
C'est
une parabole de la fin de Matthieu 25. Et on sait que Jésus va amener une prospérité extraordinaire pendant 1000 ans sur la terre. On a quelques caractéristiques comme nous l'avions vu la dernière fois. Il va y avoir des gens qui vont naître sur la terre pendant ce millénium. Des gens qui ont reçu Jésus et qui auront traversé la tribulation. Ils vont se multiplier. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une longévité. On retrouve une longévité comme il y avait au début de l'histoire de l'humanité. Une grande prospérité. Parce que, évidemment, la terre est gérée par le meilleur roi qu'elle puisse avoir. Avec les meilleurs sujets dans les meilleures positions, c'est-à-dire nous. Donc Israël devient la nation la plus puissante du monde.
Et
ça correspond exactement aux prophéties que les Israélites avaient reçues. Israël sait qu'un jour il régnera sur le monde. C'est dans cette période-là. On voit qu'il y a une paix extraordinaire, il n'y a plus de guerre possible. Plus de crise économique. Tout va très très bien sur la terre comme la terre n'a jamais connu. Mais il y a un mélange de personnes. Les gens qui ont leur corps ressuscité, dont nos fronts partent, et nous régnerons sur des nations qui seront issues des descendants de ceux qui ont traversé la tribulation, qui auront servi Dieu. Et à la fin de cette période, à la fin des 1000 ans, il va se passer encore quelque chose. C'est la seule explication, ce que je vous donne comme explication, c'est la seule explication plausible pour avoir, je dirais, l'interprétation justement d'Apocalypse. Chapitre 20, et on va lire du verset 7 au verset 9, et c'est là où on va découvrir un peu la fin du millénium. Qu'est-ce qui va se passer au bout des 1000 ans? Donc je vous rappelle que chapitre 20 du verset 1 au verset 6, on nous parle de l'établissement du millénium. Que le diable est enchaîné.
Satan a
donc pour 1000 ans, il ne peut plus séduire les nations. On sait que le millénium démarre avec nous et avec ceux qui sont ressuscités qui étaient martyrs. De la tribulation. Puis, ceux aussi qui sont encore dans leur corps comme le nôtre aujourd'hui, mais qui ont traversé la tribulation. Donc tout ça c'est clair du verset 1 au verset 6. Au verset 7, la Bible nous montre quand les 1000 ans vont s'accomplir. Donc imaginez-vous, là la terre n'est plus du tout dans le même état qu'au début du millénium. Au début du millénium, c'est-à-dire à la fin de la tribulation, la terre est dans un chaos complet. C'est une catastrophe totale de partout. À la fin du millénium, la terre est dans un ordre exceptionnel. Jésus a régné 1000 ans avec nous. Et la terre est dans un ordre merveilleux. Le premier qui a essayé de se rebeller contre l'autorité de Christ, qui ne peut pas faire, qui ne peut pas être nous, parce que nous, nous aurons notre corps ressuscité et glorifié.
Mais
les descendants de ceux qui auront encore des corps comme les nôtres aujourd'hui, directement seront corrigés. C'est sur eux d'ailleurs que nous allons régner. Il est dit, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora.
Kandi iyo myaka igihumbi niyashira, Satani azorekugwa ngo ave mu ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Baraduga bakwira isi yose, bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na cya gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata.
Donc ici on voit que le diable est relâché, il va séduire des gens.
Turabona ko Satani arekuwe agiye guzimiza abantu.
Nous, nous ne pouvons plus être séduits, c'est plus possible.
Twebwe ntibigishoboka ko tuzimizwa.
Tous ceux qui sont ressuscités avec leur corps incorruptible ne peuvent plus pécher, donc on ne va plus être séduits.
Abazo barazuse bambaye umubiri utagipfa, utagishoboka
ko cyane bizobigishoboka. Clair que ce sont toutes ces nations, ces descendants de gens qui ont un corps corruptible.
Ariko kurabo bazoba bakomotse ku bantu bavutse
bakibafite umubiri. Je rappelle tous les descendants de ceux qui auront cru en Jésus pendant la tribulation et qui
sont encore vivants à la fin de la tribulation.
Et encore vivant à la fin de la tribulation.
Ils
sont nés de ces familles-là. Parce que nous, nous ne pourrons plus procréer. La Bible nous dit qu'avec notre corps ressuscité et glorifié, l'homme n'aura plus de sexe. Donc, la seule possibilité avec laquelle on peut interpréter ces textes, c'est que c'est tous ces descendants de ces gens qui ont cru en Jésus seulement pendant juste à la fin de la tribulation et qui seront passés encore vivants dans leur corps par la tribulation.
Ce sont eux qui formeront
les nations.
En
partie, le diable va séduire. En partie. Et là, le diable ressort de sa prison. Et en fait, il va essayer de séduire. Alors, quand on voit Gog et Magog, la plupart des interprètes au niveau de la Bible, les érudits,
ils nous disent
que Gog et Magog, c'est la Russie. Alors évidemment, après 1000 ans de règne de Jésus, la Russie, on ne sait pas trop comment ça sera. Donc c'est toujours un peu difficile dans nos têtes de nous dire ça va être comme ceci ou comme cela. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez souvent des gens, quand ils ne connaissent pas bien les prophéties bibliques. Et vous savez, quand par exemple, il y a eu les régimes communistes dans les années 50, 60, etc. Et qu'on voyait la Russie qui devenait une puissance, je dirais, menaçante pour le monde. Beaucoup de pasteurs ont pris ces portions d'écriture et ont dit ça y est, on est dans ce temps-là, etc. Et c'est triste à dire, mais les gens n'arrivent pas à comprendre
l'interprétation.
Souvent, ils prennent des textes comme ça, alors les chrétiens ont peur. Et c'est stupide parce que nous n'avons pas à avoir peur de ces choses-là. Parce que Dieu nous a sécurisés pour l'éternité. Et là, on voit juste à la fin du millénium, il y a un certain nombre de gens qui auront subi le règne de Jésus par contrainte, il faut le dire, qui n'étaient pas d'accord, mais ils ne pouvaient pas bouger. Parce que la Bible dit bien que Jésus va paître ses nations avec une verge de fer, c'est-à-dire avec autorité. Donc pendant 1000 ans, pendant le millénium, aucune personne ne pourra se rebeller contre Dieu directement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont vouloir. Mais ils ne pourront pas parce qu'ils seront réprimés directement. Et c'est pour ça qu'il n'y aura plus de rébellion ouverte contre Dieu comme on peut le voir dans ce monde aujourd'hui. Plein de choses anti-Dieu sont là et ont pignon sur rue actuellement.
Partout,
on peut se moquer de Dieu, on peut faire n'importe quoi dans ce monde aujourd'hui.
Dans cette
période du millénium, personne ne pourra faire ça.
Quelqu'un
a fait ce commentaire pendant le millénium.
Il
a dit que pendant le millénium, vous voyez, même si le diable est enchaîné,
eh
bien, ça prouve qu'il y a quand même des gens avec leur chair qui sont contre Dieu. Parce que souvent les gens disent, ah, c'est à cause du diable que les gens sont rebelles contre Dieu.
En
partie c'est vrai, mais pas seulement.
Il
y a la chair des gens.
Et
là on voit que directement la puissance de Dieu va démolir cette puissance satanique.
Et
apparemment, vous voyez, il y a juste un petit verset ici.
Au
verset 9, il est dit, ils montèrent à la surface de la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Directement, ça, c'est rapide.
Baraduga bakwirisi yose bakikiza ingabo z'abera zishagaje na cyagisagara gikundwa umuriro atibuka uvuye mu ijuru urabarigata.
Et il est dit donc au verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Kandi umurwanizi yabazimiza ateregwa muri cya kiyaga cy'akumuriro n'amazuku kirimo na cya gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma bazobabazwa ku murango no mu ijoro ibi bidashira.
Donc là Dieu directement va se débarrasser du diable.
Donc vous gars, ah, Imana rezo kwikunkumura satani.
Alors vous voyez cette expression l'étang de feu et de soufre.
Murabona rero iri jambo rivuga ngo cya kiyaga cy'akumuriro n'amazuku.
Il y a une différence entre l'enfer
et
l'étang de feu et de soufre. Alors, vous savez, il y a une autre expression que Jésus a utilisée. En français, on dit la GN.
Vous
voyez, alors, ces expressions entre l'étang de feu et de soufre et la GN, ce sont des expressions qui sont équivalentes. Ça veut dire la même chose. Et il y a aussi un autre synonyme c'est que la Bible utilise, c'est la seconde mort ou la mort éternelle. Donc quelqu'un qui est jeté dans l'étang de feu et de soufre ou dans la GN qui subit la seconde mort ou la mort éternelle, ce sont des expressions similaires pour indiquer quelque chose qui va se passer justement après ce qu'on appelle le jugement dernier. Alors, le jugement dernier, on en entend parler un peu partout. Et c'est une réalité de la parole de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dessins dans les religions chrétiennes qui ont été faits sur le jugement dernier. Et la Bible va nous parler de ce jugement. Au verset 11, il est dit la chose suivante. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face s'enfuirent la terre et les cieux, et ne furent plus trouvés de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était inscrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent leurs morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
Vous
voyez le verset 15, s'il te plaît. Alors, on va lire maintenant au chapitre 21, verset 8. Il est dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est cela la seconde mort.
Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanye n'abashakanye n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga cy'akumuriro n'amazuku nico rupfu rwa kabiri.
Donc juste à la fin du millénium,
inyuma rero y'icyo myaka igihumbi,
Dieu va régler les comptes avec les hommes.
Imana rero izovugana n'abantu,
mais aussi avec les esprits sataniques.
Dieu
va régler tous ses comptes à ce moment-là avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Tout ce qui s'est produit, tous les êtres spirituels, qui ont été créés. Dieu va régler les comptes avec eux. Et la Bible nous montre comment ça va se faire. D'abord, Dieu va enlever terre et ciel. Ça se passe donc dans le monde spirituel, c'est-à-dire que tout le monde est mort. Il n'y a plus de vie physique. Ensuite, Dieu nous montre qu'il y a un grand trône blanc. La Bible est claire. Il y a une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Regardez Acte 24, verset 15. Ça, c'est important à comprendre. Acte 24, verset 15. 15. Il est dit, et c'est Paul qui parle, et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Donc nous savons qu'il y a deux résurrections. La première résurrection, elle se passe en phase. La première phase, nous l'avons vue, c'est avec l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui ont reçu Jésus pendant le temps de la grâce où nous sommes,
et qui
sont morts, vont vivre la première phase de la première résurrection.
Nous
savons que nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil,
etc.
Ensuite, nous avons vu que pour l'entrée dans le millénium, Dieu avait prophétisé une résurrection par le prophète de Daniel. Et nous savons qu'il y a une phase de la résurrection qui va s'opérer au début du millénium, c'est-à-dire à la fin de la tribulation.
Tous
ceux qui sont morts en Christ pendant la tribulation. Eux vont aussi ressusciter pour entrer dans le millénium avec nous. Mais pendant le millénium, nous avons vu qu'il y a des êtres humains qui vont vivre sur cette terre et qui vont mourir encore. Il est clair que certains de ces êtres humains, nous l'avons vu, ne s'intéressent pas à Dieu. Même si Jésus règne, même s'il y a le meilleur des meilleurs, des meilleurs leaders sur la terre, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par Dieu pendant les 1000 ans. Il y en a d'autres qui vont aussi accepter le Seigneur. Parce que ça paraît clair dans la Bible. Maintenant, ceux-là, ils sont encore dans un corps qui va mourir, qui est mortel.
Donc,
il est évident que lorsque Dieu va enlever terre et ciel, lorsque Dieu enlève la terre et le ciel, dans le passage que nous avons lu, eh bien, ces gens-là vont mourir aussi. Juste avant le jugement dernier, plus aucun être humain ne vit sur la terre. Il n'y a plus de vie possible. Mais il y a encore deux groupes de personnes qui sont dans des corps mortels. Sachant que ceux qui ont déjà leur corps ressuscité ont un corps immortel qui ne pourra jamais
mourir.
Donc, on peut vivre dans le monde spirituel comme dans le monde naturel. Dans votre corps ressuscité, vous n'aurez pas besoin d'atmosphère pour vivre. Vous n'aurez pas besoin d'oxygène pour vivre. Rappelez-vous que Jésus a fait des allers-retours entre le ciel et la terre.
Et
il est le premier-né d'entre les morts. Donc il faut que vous sachiez que l'oxygène ne sera pas nécessaire à la vie de votre corps ressuscité. Si vous n'y avez pas encore pensé, ben maintenant vous y pensez. Il y a des choses comme ça. Et donc, par contre, il y aura d'autres personnes. Les êtres humains qui seront nés pendant le millénium et qui, à la fin du millénium, seront encore vivants dans leur corps.
Ils
seront deux catégories. Ceux qui auront accepté Jésus pendant le millénium et ceux qui se seront rebellés avec la dernière rébellion de Satan. Et tout le monde va mourir à la fin du millénium. Tout cela, en tout cas. Tout cela, sauf nous, bien sûr. On a notre corps ressuscité, je vous
rappelle.
Et ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, ceux qui sont morts en Christ, il est évident qu'avant d'entrer dans la gloire divine, Dieu va les revêtir d'un corps ressuscité. Il n'y a pas d'autres explications. Parce que c'est avec eux qu'on sera aussi pour l'éternité. Par contre, il y en a d'autres qui vont mourir à ce moment-là, à la fin du millénium, qui vont aller en enfer. Donc, tous ceux qui sont en enfer, Dieu va les faire ressortir. Et il les ressuscite pour la deuxième résurrection. Donc rappelez-vous, il y a deux résurrections. La première, pour ceux qui ont suivi le Seigneur, qui ont reçu Jésus, quelle que soit la période dans laquelle ils vont tomber, ça se passe en trois phases. Et la deuxième résurrection, qui est tous ceux qui sont morts à la fin du millénium et tous ceux qui sont morts depuis le début de l'histoire de l'humanité, qui sont en enfer, ils vont sortir de l'enfer. Il faut que vous compreniez une chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'éternité. Mais que ce soit pour nous, le ciel n'est pas une finalité éternelle. Le ciel est un passage pour nous aussi. Parce que notre finalité éternelle sera de vivre sur la terre comme nous allons le voir, avec de nouveaux cieux et de nouvelles terres. L'enfer n'est pas une finalité non plus pour les pécheurs. C'est marqué ici. Dieu va les faire ressortir de l'enfer. Il va les ressusciter avec un corps de la honte. Et ils vont être jugés. Et après, ils vont être jetés dans le lac de feu et de soufre.
Ou
ce que la Bible appelle la géhenne. La Bible parle à plusieurs reprises de la
géhenne.
C'est Jésus qui en parle.
Dans différents domaines.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la géhenne ou l'étang de feu et de soufre, ça, c'est la demeure éternelle de souffrance du diable, des démons, et de ceux qui, après le jugement
d'Élie,
seront jetés dans ce lac de feu et de souffrance. Rappelez-vous que la finalité de l'homme, c'est d'être en trois dimensions. Que ce soit pour nous, qui allons passer l'éternité avec Dieu, que ce soit pour les pécheurs qui après leur deuxième résurrection vont être jugés et jetés dans les temps de feu et de souffre pour une souffrance éternelle. Mais rappelez-vous que l'homme a été créé en trois dimensions et il passera l'éternité en trois dimensions, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. C'est l'immense différence entre les deux. Ceux qui auront servi Dieu ou ceux qui n'auront pas servi Dieu. Donc cette différence, il faut vraiment la montrer parce que l'éternité ne se passera pas pour nous dans le ciel, comme nous allons le voir. Et pour les pécheurs, il ne faut pas dire le pécheur va passer l'éternité en enfer. Non, il va passer l'éternité dans les temps de feu et de soufre. C'est exactement ce que Dieu dit dans sa parole, mais entre temps, il doit passer par le jugement. Alors, la Bible est claire, elle parle plusieurs fois de jugement.
Et
je vous rappelle que nous annonçons une bonne nouvelle qui permet aux pécheurs perdus d'éviter le jugement. Alors, on va regarder Jean chapitre 5, verset 24, jusqu'au verset 29. Jean 5, 24 à 29. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Tout le monde dit, il ne vient point en jugement.
il ne vient point en jugement.
Mais il est passé de la mort à la vie.
Il est passé de la mort à la vie.
Amen.
Amen.
Vous voyez, là c'est clair dans la Bible.
Le
jugement divin
est
pour ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur.
Il
y a souvent des chrétiens qui disent « Ah, mais on va bien être jugé quelque part. » Non, tu vas être récompensé. Amen.
Amen.
Tu vas être récompensé. Tu auras une grande, une moyenne ou une petite récompense. Donc réfléchis bien à ce que tu fais dans ton corps.
Mais
celui qui a la vie ne vient pas dans, en jugement.
C'est
clairement marqué dans la Bible.
Vous
savez, parfois il y a des gens qui prêchent
Christ.
Et malheureusement, dans certaines églises, on laisse planer un espèce de doute. On laisse planer un espèce de doute.
Et
c'est très mauvais, parce que ce doute-là, le diable en profite souvent. C'est pour ça que souvent, il va y avoir des trucs sur la perte du salut, etc., où les gens vont commencer à raconter plein de trucs. Ce qui fait que les gens vivent avec une espèce de, je dirais, de peur. Et ils ne creusent pas leur relation avec Dieu. Dans l'amour parfait, il n'y a pas de crainte. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que nous ne sommes pas basés sur une religion, nous sommes dans une relation. C'est ce qui fait toute la différence entre toutes les religions de la terre, chrétiennes ou non chrétiennes d'ailleurs. C'est triste d'avoir fait en partie du christianisme une religion.
Parce
que Jésus n'est jamais venu apporter une religion. Il est venu apporter la vie. C'est ce qui fait toute la différence. La Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui parle au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui ont pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc c'est très clair, la Bible dissocie bien celui qui a reçu la vie de celui qui n'a pas la vie de Dieu. Et nous savons que cette vie, c'est Jésus qui la transmet. Et à partir du moment où on a le Fils, on a la vie. C'est-à-dire que si on a reçu le Fils de Dieu dans notre cœur, tellement de gens vivent dans des craintes ou dans des religions. Moi, je hais vraiment la religion. Il y a tellement d'esprits sataniques derrière les religions. Les gens pensent qu'ils sont dans la vérité. Et ils courent en enfer. Quel drame la religion. Elle vous fait croire que finalement, bon, vous croyez dans un Dieu, vous essayez de faire le bien. Et il y a des gens qui dévouent toute leur vie à essayer de faire le bien. Et qui termineront leur éternité en enfer. Enfin, en enfer et dans le feu de
l'arc de feu.
C'est grave. Imaginez-vous un peu. Quel mensonge. Il y a tellement d'esprits sataniques qui sont derrière toutes les religions. Toutes les religions sont, je dirais, fondées avec des esprits sataniques, des esprits de mensonges. Jésus n'est jamais venu apporter une religion. Il est venu apporter la vie, c'est tout. Vous vous repentez, vous croyez en moi. Et je vous emmènerai dans le voyage le plus extraordinaire. Je
ne
vois pas ce que Dieu pouvait faire de plus pour nous. Ça c'est vraiment Dieu. La Bible nous parle du jugement.
Pour
les pécheurs. Et c'est une doctrine d'ailleurs. Regardez chapitre 6 d'Hébreux. La Bible en parle. Nous devons prêcher un évangile qui est la bonne nouvelle, mais nous devons aussi avertir les pécheurs. Vous devez dire aux gens, Dieu vous aime. Il a un plan extraordinaire pour ta vie. Mais aussi, on doit prévenir les gens du jugement qui vient. C'est notre rôle, non pas pour leur faire peur, mais pour qu'ils le sachent. Après, c'est à eux de faire leur choix. Pour Dieu ou contre Dieu. C'est un choix délibéré que l'homme doit faire. L'homme a été créé pour choisir.
S'il
veut une relation avec Dieu, c'est un choix. Une relation est un choix. Une relation n'est pas une obligation. À partir du moment où une relation deviendrait une obligation, ce n'est plus une relation. La Bible dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement, verset 1, Hébreux 6, élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, la maturité. Rappelez-vous que le mot parfait veut dire mature. Sans poser de nouveau le fondement à la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc la Bible ici nous parle bien de jugement éternel. Chapitre 9, toujours d'Hébreux. Verset 27. Il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ensuite, 2 Pierre 2,9.
Petero wa kabiri, igice cya kabiri,
mirongo icyenda. On va lire 2 Pierre 2,9.
Reka dusome Petero wa kabiri, igice cya kabiri, mirongo icyenda.
De Pierre 2,9, il est dit, c'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, ou donc des moments difficiles, hein, les hommes pieux, c'est-à-dire les hommes qui s'attachent à lui, qui l'aiment, et réservé les injustes pour le châtiment au jour du jugement.
Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kurinda abagabitanya bahanwa gushitsa ku munsi w'amateka, umunsi w'urubanza.
Donc la Bible est très claire.
Bibiliya bitomora neza.
Il y a un jugement.
Hariho urubanza.
Qui vient pour tous ceux qui seront en enfer.
Ils
ressortiront, ils ressusciteront pour la deuxième résurrection. Et ils passeront tous devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. Dieu va ouvrir des livres et va lire leurs péchés. Et le péché commun qui sera reproché à tous ces gens-là, c'est d'avoir rejeté Jésus comme sauveur. Vous allez me dire, oui, mais attendez, est-ce que tout le monde a entendu l'évangile sur cette terre? Est-ce que, par exemple, moi, j'étais un fils de quelqu'un qui était sauvé réellement. J'ai entendu l'évangile dès mon jeune âge. Et moi, je connais quelqu'un qui n'a jamais entendu l'évangile. Mais regardez ce que la Bible dit. Dieu n'est pas injuste. Dieu est capable de toucher une personne. Par exemple, vous savez, on entend beaucoup parler du monde musulman. Regardons Romains chapitre 1. Mais vous savez que dans le monde musulman, il y a un certain nombre de gens. Alors qu'il n'est pas permis d'avoir une Bible, d'invoquer le nom de Jésus, de prier Jésus, alors qu'il n'est pas permis de se réunir si vous êtes chrétien né de nouveau, même dans ces milieux-là, il y a un certain nombre de gens qui acceptent le Seigneur et qui ne peuvent pas vivre leur foi
ouvertement.
Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que Job? Qui était Job d'ailleurs? Je le prends souvent comme exemple pour illustrer ce que je vais vous expliquer ici. Job dans la Bible, c'était quelqu'un qui vivait au temps d'Abraham. Abraham, est-ce qu'il avait la loi? Non. Pourquoi est-ce qu'Abraham connaissait Dieu? Pourtant, quand vous étudiez l'histoire d'Abraham, la Bible nous dit que ses parents étaient des idolâtres, des gens qui faisaient de la sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'Abraham connaissait Dieu? Parce qu'il avait soif de Dieu. Parce qu'il a cherché Dieu. Pourquoi est-ce que Job, qui était en Arabie, on pense qu'il était du côté de l'Arabie Saoudite, perdu dans des coins désertiques, il avait des sous, il était bien, pourquoi est-ce qu'il a cherché Dieu? Pourquoi est-ce qu'il avait une connaissance de Dieu? Parce qu'il avait soif. N'importe quel être humain qui a soif peut rencontrer Dieu. Dieu se révélera. S'il faut qu'il lui fasse parvenir quelqu'un qui va lui parler de Jésus, il n'y a aucun problème. Dieu est capable de tout. Il peut tout faire pour qu'une personne, quelle que soit sur la planète, quelle que soit la période dans laquelle elle a vécu, qu'elle puisse entendre le message. Ou même Dieu peut se révéler à lui
directement.
Donc, par exemple, dans Romains, chapitre 1, verset 18 à 25, la parole de Dieu nous montre pourquoi la colère de Dieu demeure sur les pécheurs. La Bible nous dit, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Impiété, c'est ce qui renie, je dirais, c'est des gens qui refusent de reconnaître et de s'attacher à Dieu. Et contre toute impiété. Et toute injustice des hommes qui retiennent, regardez bien, injustement la vérité captive. Et il dit pourquoi ? Qu'est-ce que la vérité captive ? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne se sont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans leur vain raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises, ou a permis qu'ils soient livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est exactement ce qui s'est passé. L'homme a remplacé Dieu.
Imana
par ses passions, par des hommes peut-être ou des femmes qui paraissaient grands devant eux, par de l'argent, par des statues pendant beaucoup de périodes. Quand on regarde l'histoire des peuples, c'est incroyable de voir combien d'idolâtries on fait. Toutes les nations du monde ont fait d'idolâtrie. Partout, même des peuplades les plus retranchées. Quand par exemple vous regardez l'histoire des Aztèques, cette tribu indienne qui était en Amérique du Sud, qui était perdue au fin fond de je ne sais quoi,
ils
faisaient de l'idolâtrie, jusqu'à faire des sacrifices humains, des horreurs partout dans ce monde. Rapidement, quand l'homme est venu, a été créé et que Dieu lui a tout donné sur la terre, l'homme a remplacé Dieu. L'homme a remplacé Dieu.
Par ses idoles,
par toutes sortes de choses. Et Dieu dit, ça c'est inexcusable. Par exemple, il y a des scientifiques. Moi j'aime bien regarder les magazines scientifiques. Je regardais récemment un magazine sur le plus gros cerveau de l'humanité qui est Albert Einstein.
Albert Einstein.
Tu connais pas Einstein?
Einstein.
Okay. Tu es mécanicien, tu es pas physicien. Et Albert Einstein, c'était quelqu'un qui a découvert, qui a remis complètement en question toute la physique de je ne sais combien de millénaires.
Uwo mugabo rero niwe yashoboye ivy'Imana kubicokora gucyo akabisubiriza.
Il a découvert une ce qu'on appelle une physique, ce qu'on appelait quantique. Oh, c'est trop compliqué, je vais pas expliquer ça parce que c'est trop compliqué.
Nibyo buhinga nk'ibyo bushakashatsi
bukomeye. Mais il a découvert des principes physiques.
Hari ibintu by'amategeko rero yo mu bintu bushakashatsi.
Qui a remis en question des millénaires de découvertes de scientifiques.
Nokuvuga byagwanije ivy'Imana.
Et puis ils ont découvert à l'issue de ça des choses sur l'infiniment petit.
Babona ibintu by'akarenzo bigera hiyo.
Mais moi, je suis toujours étonné. Et je le dis souvent. Il faut vraiment, vraiment être stupide et être grand scientifique et athée. Parce que théoriquement, quand tu es un grand scientifique,
tu
es ni plus ni moins en train de découvrir avec une intelligence que tu as reçue des choses que Dieu a créées juste en faisant et que l'homme a mis 6000 ans à découvrir. Moi, je trouve qu'un scientifique devrait être émerveillé. Plutôt que de se dire, C'est venu par hasard, du hasard, de Lazare. Un jour, a engendré un autre jour. Et tout s'est mis en place tout seul. Mais vous savez, j'ai découvert la loi après 6000 ans d'histoire de l'humanité qui montre que ça marche très bien. Ça, ça me dépassera toujours.
De
voir des gens qui passent leur vie, qui dévouent leur vie à des recherches, qui ne sont ni plus ni moins à la découverte de principes que Dieu lui-même a créés. Pourquoi ces gens-là ne disent pas plutôt « Oh Dieu, tu es grand et puissant. Je suis tout petit et j'ai découvert juste un tout petit peu de ce que tu as créé. » Ça devrait être la réflexion de la plupart des scientifiques. Einstein était un croyant, il n'était pas né de nouveau, mais il croyait en Dieu, en tout cas fermement, c'était un juif.
Et
cet homme souvent disait, non, Dieu a mis les choses d'une façon ordonnée. Et il se heurtait à d'autres personnes, des grands scientifiques de l'époque, qui disaient souvent, non, non, les choses doivent être désordonnées. Einstein disait, non, c'est pas possible. Dieu a mis les choses d'une façon ordonnée. Et ça l'a poussé dans ses recherches. Parce qu'il savait qu'il y avait un créateur. Il savait que les choses n'étaient pas venues par hasard. Donc, le monde refuse à chaque fois de dire qu'il y a un Dieu, de dire qu'on peut découvrir Dieu. Vous savez, il y a une opposition terrible au message de l'Évangile quand vous commencez à le répandre en masse. Quand l'Évangile est répandu en masse, il y a une opposition terrible qui se produit. Rappelez-vous, Jésus a été persécuté parce qu'il allait de lieu en lieu, de ville en village, pour amener la connaissance de Dieu. Tant que quelque chose est tout petit, le diable n'y fait pas trop attention. Quand l'évangile commence à se répandre un peu trop, le diable déchaîne ses esprits sataniques pour essayer de freiner l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il essaye absolument que la connaissance de Dieu ne se répande pas dans le monde. Mais l'homme est coupable. Chaque homme qui passera devant le trône du jugement de Dieu, il y aura une liste de péchés. Mais le péché numéro un qui lui sera reproché,
dire,
tu ne m'as jamais cherché. Tu n'as jamais reconnu que j'existais. Tu n'as jamais voulu entendre. Tu n'as jamais voulu voir avec tes yeux les évidences. Tout homme se pose un jour la question. Est-ce qu'il y a un Dieu? Tout homme se pose un jour la question. Le hasard, est-ce que ça existe vraiment? Tout homme peut regarder la nature. On a tous des yeux pour regarder les étoiles. On a tous des informations qui nous montrent que rien n'a pu se passer par hasard. Qu'il y a un jour quelqu'un qui a ordonné toutes choses. On connaît certaines choses sur l'infiniment grand. On connaît des choses sur l'infiniment petit. Mais le péché qui sera reproché à tous, c'est d'avoir refusé de reconnaître, d'avoir caché les choses de Dieu. Ça, c'est le péché qui sera reproché à tous. Pour clôturer ce soir, regardez Colossiens 2. Pour nous, il y a quelque chose qui a été effacé. Mais pour chaque pécheur qui sera dans la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, il y a quelque chose qui n'a pas été effacé et qui ressortira ce jour-là. Colossiens 2:14. Ça, c'est pour nous. Il est dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix.
Ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa cyaduhama
Eh bien, la mauvaise nouvelle pour les pécheurs qui seront ressuscités pour la deuxième résurrection, c'est que cet acte rédigé contre eux est toujours là.
Il
n'a pas été effacé par le sang de Jésus. Nous, il a été effacé. Il a été déchiré et détruit. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Mais pour eux, les grands livres dont la Bible parle, dont nous avons vu, nous l'avons lu dans l'Apocalypse, ces grands livres seront ouverts. Et c'est cet acte qui sera lu contre eux. Cet acte, c'est l'acte de leur condamnation. Et si je vous dis ça, frères et sœurs, c'est pas pour dire, oh, gloire à Dieu, quel jour glorieux. Un jour, j'ai lu un livre qui, d'un frère qui a eu une vision du ciel, qui était au ciel. Et ce frère disait une chose. Alors qu'il avait vu le ciel, il avait vu le trône de Dieu, qu'il avait vu la Jérusalem céleste. Et c'est un frère qui est très excité par les choses de Dieu, qui est très, vraiment brûlant pour le Seigneur. Et alors qu'il était de pratiquement prêt à retourner sur la terre, il a vu Jésus. Il a vu Jésus pleurer. Et en fait, il dit, et il se demandait, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et le Seigneur lui disait, tu sais, ce jour-là, ce ne sera pas un jour de plaisir pour moi. Le jour où les pécheurs sont condamnés et envoyés dans le lac de feu et de soufre, ce ne sera pas un jour de fête pour Jésus. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille dans la mort éternelle. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il aille dans la vie éternelle. Mais l'homme doit faire un choix. La vie ou la mort. C'est ça qui est devant lui. Et c'est le message que nous avons à prêcher. N'oubliez jamais cela. Ne vous habituez pas à voir des gens qui ne sont pas sauvés autour de vous. Mais ne vous habituez pas à dire, moi je vais être béni du Seigneur. Moi je vais être béni du Seigneur, moi. Pensez toujours autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Et que le travail est toujours infini. Nous n'aurons jamais cessé de travailler. Nous ne devons pas nous reposer en nous disant simplement, bah, c'est bien, moi je suis sauvé, moi je suis béni, tout va bien. Oui, mais regarde autour de toi. Parce qu'un jour, ils passeront là. S'ils ne sont pas sauvés. Donc fais tout ce que tu peux pour parler de Jésus. Prie pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour qu'ils viennent à Jésus. Tu n'es pas responsable de leur salut. Mais au moins, fais ta part. Il y a de la puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans ton témoignage. Donc, parle de Jésus. Ne te lasse pas de parler du Seigneur. Et la sagesse de Dieu pour le faire. Prie pour les gens. Si les gens ont des problèmes, prie pour eux. Et ils viendront à Jésus. Ou ils ne viendront pas à Jésus. Ça, ce n'est pas ta responsabilité. Mais nous avons tous une part à jouer. Rappelez-vous, nous construisons un royaume qui est éternel. Chaque jour, focalise ta vie. Non pas sur toi-même, non pas sur tes petits trucs, mais apprends à focaliser ta vie avec la pensée de Dieu. Occupe-toi de ce dont tu as à t'occuper dans la vie, c'est normal. Parce qu'il y a des super spirituels qui passent leur vie soi-disant à prier et qui font n'importe quoi de leur vie. Je ne dis pas de faire ça, mais mettez la priorité là où elle doit être mise. Le pécheur perdu a besoin de Jésus. Toi, tu as besoin de refléter le royaume. Toi, tu as besoin de refléter le royaume. Plus tu reflètes le royaume, plus tu t'occupes du pécheur perdu, plus il viendra à Jésus. Et dans cette grande fête que nous étudierons encore, je pensais terminer ce soir, mais je ne terminerai pas ce soir, nous voulons être un maximum pour glorifier Dieu pour l'éternité. Et nous avons un rôle à jouer, frères et sœurs. Amen. Nous avons un rôle à jouer. Le Seigneur vous bénisse. Passez une super soirée. Et pensez à tout ça.